Mondes en VF présente Le cœur à rire et à pleurer de Marie Scondé. Copyright édition Didier 2013. Ma naissance. Indifférent comme à son habitude, mon père n'avait pas de préférence. Ma mère, elle, désirait une fille. La famille comptait déjà 3 filles et 4 garçons, cela égaliserait les camps. Passée la honte d'avoir été prise, à son âge respectable, en flagrant délit d'œuvre de chair, ma mère ressentit une grande joie de son état, de l'orgueil même. L'arbre de son corps n'était pas flétri, desséché. Il pouvait encore porter des fruits. Devant sa glace, elle regardait avec ravissement s'arrondir son ventre, rebondir ses seins, doux comme une paire de pigeons ramiers. Tout le monde lui faisait compliment de sa beauté. C'est qu'une nouvelle jeunesse activait son sang, illuminait sa peau et ses yeux. Ses rides s'estompaient magiquement. Ses cheveux poussaient, touffus comme une forêt, et elle faisait son chignon en fredonnant, chose rare, une vieille chanson créole qu'elle avait entendue chanter à sa mère, morte 5 ans plus tôt. Sourant en blanc, cassambé en pigeon blanc, sourant en gris, cassambé en tout douel. Pourtant, son état tourna vite à la mauvaise grossesse. Quand les nausées cessèrent, les vomissements prirent la relève. Puis les insomnies, puis les crampes. Des mordants à crabes tenaillaient ses mollets à les couper. À partir du 4e mois, elle fut épuisée, en nage au moindre mouvement. Tenant son parasol d'un poignet sans force, elle poussait son corps dans la chaleur torride du carême jusqu'à du bouchage où elle s'obstinait à faire classe. En ce temps-là, on ne connaissait pas ces scandaleux congés de maternité. 4 semaines avant l'accouchement, 6 semaines après ou vice-versa. Les femmes travaillaient jusqu'à la veille de leur délivrance. Quand Vanée, elle arrivait à l'école, elle se laissait tomber de tout son poids sur un fauteuil dans le bureau de la directrice, Marie Célani. Dans son fort intérieur, celle-ci estimait qu'à 40 ans passés, avec un mari déjà vieux corps, on ne fait plus l'amour. C'est bon pour les jeunesses. Pourtant, elle ne manifestait rien de ses pensées peu charitables. Elle épongeait la sueur du front de son amie et lui donnait à boire de l'alcool de menthe dilué dans de l'eau glacée. Sous la brûlure du mélange, ma mère retrouvait sa respiration et prenait le chemin de sa classe. En l'attendant, ses élèves, qui la craignaient, n'en profitaient pas pour faire du désordre. Tête baissée, elle s'appliquait comme si de rien n'était sur leur page d'écriture. Heureusement pour le repos, plus que le dimanche avec sa grand-messe devenue une corvée, il y avait le jeudi. Ce jour-là, mes aînés étaient sommés de se faire oublier. Ma mère gardait le lit, montagne de chair, sous les draps de toile brodée, dans la pénombre de sa chambre, car toutes les persiennes restaient fermées. Le ventilateur ronronnait. Vers 10 heures, Gitane, chargée du ménage, avait fini de promener son plumeau sur les meubles, de battre les tapis et de boire sa énième tasse de kiololo. Elle montait alors des brocs d'eau chaude et assistait ma mère à sa toilette. Celle-ci s'asseyait dans la baignoire en zinc, son ventre en obus coiffé d'un nombril barbare pointant devant elle, tandis que la bonne lui récurait le dos d'un bouchon de feuillage. Ensuite, Gitane l'épongeait avec un drap de bain, la farinait de poudre de talc, blanc comme poisson qui va frire, et l'aidait à enfiler une chemise de nuit en coton brodé avec des jours. Après quoi, ma mère se recouchait et somnolait jusqu'au retour de mon père. La cuisinière avait beau préparer de petits plats, blanc de poulet, vol au vent de lambis, feuilleté de chatroux, ouassou à la nage, ma mère, qui avait des envies, repoussait les plateaux chagrinés. « Je veux des acrapisquettes !» Pas découragée, la cuisinière se précipitait à nouveau derrière son potager, tandis que mon père, impatienté, jugeant que sa femme s'écoutait trop, mais se gardant de trahir son humeur, s'absorbait dans la lecture du nouvelliste. C'est avec un sentiment de libération que vers 2 heures de l'après-midi, après un baiser posé en vitesse sur le front moite, il quittait la chambre à coucher qui sentait la fleur d'oranger et l'asafoetida et qu'il retrouvait le grand soleil. Quelle chance d'être à l'abri de toutes ces dégoûtasseries. Règles, grossesses, accouchements, ménopause. Dans sa satisfaction d'être un homme, il bombait le torse en traversant la place de la Victoire. Les gens le reconnaissaient et le prenaient pour ce qu'il était, un vaniteux. Ce fut une période où, sans commettre rien de bien coupable, mon père se rapprocha des amis qu'il avait négligés parce qu'ils déplaisaient à ma mère. Il reprit goût à des tournois de belote ou de domino, qu'elle trouvait communs, et fuma énormément de cigares Monte-Cristo. Vers son 7e mois, les jambes de ma mère commencèrent à enfler. Un matin, elle se réveilla avec 2 poteaux striés d'un lacis de veines gonflées qu'elle pouvait à peine bouger. C'était le signe grave qu'elle faisait de l'albumine. Du coup, le docteur Mélas lui prescrivit le repos absolu, finit l'école et un régime très strict, plus un grain de sel. Désormais, ma mère se nourrit de fruits. Des sapotilles, des bananes, du raisin, des pommes françaises surtout, rondes et rouges comme les joues du bébé Kadom. Mon père les commandait par cajot entier à un ami, commerçant sur les quais. La cuisinière les préparait en compote, au four avec la cannelle et la cassonade, en beignet. L'odeur de ces fruits qui mûrissaient trop vite s'infiltrait, têtue, du rez-de-chaussée jusqu'aux chambres à coucher du 2e étage et tournait le cœur de mes frères et sœurs. Chaque après-midi, vers 5 heures, les bonnes amies de ma mère s'asseyaient autour de son lit. Comme mon père, elle jugeait qu'elle s'écoutait trop. Aussi faisait-elle la sourde oreille quand ma mère commençait de geindre, et elle lui contait les faits de la pointe, les baptêmes, les mariages, les décès. Figure-toi, le magasin de matériaux de construction Pravel a brûlé comme une allumette. Des débris, on avait retiré les corps calcinés de 5 ouvriers, et Monsieur Pravel, un blond pays, un sans-cœur, ils le sont tous, s'en moquait pas mal. On parlait de grève. Ma mère, qui en temps normal ne se souciait pas de problèmes sociaux, s'y intéressait moins que jamais. Elle revenait à elle-même. J'avais bougé dans son ventre. Je lui avais décoché mon premier coup de pied. Fameux ! Si, à Dieu ne plaise, j'étais un garçon, je serais un footballeur de première. Le terme de ma mère finit par arriver. Elle était tellement énorme qu'elle n'entrait plus dans sa baignoire et passait le temps dans son lit ou sa berceuse. Elle avait rempli 3 paniers Caraïbes avec mes effets et les faisait admirer à ses amis. Dans l'un, les casaques en batiste, en soie ou en dentelle, ainsi que les chaussons crochetés au fil des MC, le burnou, les bonnets, les bavoirs, le tout en rose. Dans l'autre, les gilets et les couches de 2 qualités, en tissu éponge ou simple pointe en coton. Dans le 3e, les draps brodés, les courtes pointes, les serviettes de toilette. Il y avait aussi des bijoux dans une jolie boîte en papier mâché. Une gourmette, sans nom gravé, bien sûr, une chaîne de cou avec sa grappe de médailles pieuses, un amour de broche. Ensuite, sur la pointe des pieds, les visiteuses pénétraient dans le sein des saints, la pièce qui m'était destinée, un ancien débarras transformé au flanc de la chambre de mes parents. Ma mère était très fière d'une reproduction de la Visitation, l'ange Gabriel, sa fleur de lys au poing, que j'ai considérée toute mon enfance sur une des cloisons, et posée sur la table de chevet d'une veilleuse en forme de pagode chinoise qui distillait une lumière rose. Cependant, c'était le carnaval, et la pointe était en chaleur. En fait, il y avait 2 carnavals. L'un bourgeois, avec demoiselles déguisées et défilés de chars sur la place de la Victoire, et l'autre, populaire, le seul qui importait. Le dimanche, les bandes de masse sortaient des faubourgs et convergeaient vers le cœur de la ville. Massafeille, Massaconne, Massagoudron, Mocozombies juchaient sur leurs échasses. Les fouets claquaient, les sifflets défonçaient les tympans, et le guoka battait à coups qui faisait verser la bassine d'huile jaune du soleil. Les masses remplissaient les rues, inventaient 1000 facéties, caracolaient. La foule se battait sur les trottoirs pour les regarder. Les gens de bien, chanceux, se massaient sur les balcons et leur lançaient des pièces à la volée. Ces jours-là, on ne pouvait retenir Sandrino à la maison. Il disparaissait. Parfois, les bonnes qui partaient à sa recherche le retrouvaient enivré, les habits maculés de taches qui résistaient à la javel. Mais c'était rare. En général, il réapparaissait à la nuit et sans un gémissement, il recevait les raclées à coups de cuir que lui administrait mon père. Le matin du Mardi Gras, vers 10 heures, des douleurs qu'elle crut reconnaître saisirent ma mère. Les premières contractions. Bientôt pourtant, elles s'espacèrent et la laissèrent tranquille. Le docteur Mélas, curie en hâte, assura après examen que rien ne se passerait avant le lendemain. À midi, ma mère mangea de bon appétit les beignets de la cuisinière, en redemanda même et trinqua une coupe de vin mousseux avec mon père. Elle eut l'énergie de composer un sermon édifiant à l'adresse de Sandrino, que Gitane venait de rattraper, la chemise flottant comme un drapeau à l'angle de la rue du Gommier. Sous peu, le bon Dieu lui ferait cadeau d'une petite sœur ou d'un petit frère, qu'il aurait mission de guider de ses conseils et bons exemples. Ce n'était pas le moment de faire le brigand. Sandrino écoutait avec ce scepticisme qu'il réservait à tous les propos de mes parents. Il n'avait envie de servir d'exemple à personne et n'avait que faire d'un nouveau-né. Pourtant, m'assura-t-il, il m'aima tout de suite, quand quelques heures plus tard, il me vit tellement laide et chétive dans ma parure digne d'une princesse. À 1 heure de l'après-midi, déferlant de tous les coins des faubourgs, les masses envahirent la pointe. Quand les premiers coups de Guoka firent trembler les piliers du ciel, comme si elle n'attendait que ce signal-là, ma mère perdit les os. Mon père, mes aînés, les servantes s'affolèrent. Pas de quoi ! 2 heures plus tard, j'étais née. Le docteur Mélas arriva pour me recueillir toute visqueuse dans ses larges mains. Il devait répéter à qui voulait l'entendre que j'étais passée comme une lettre à la poste. Il me plaît de penser que mon premier hurlement de terreur résonnait inaperçu au milieu de la liesse d'une ville. Je veux croire que ce fut un signe. Signe que je saurais dissimuler les plus grands chagrins sous un abord riant. J'en voulus à ma grande sœur Emilia qui, elle aussi, était née au milieu des pétarades et des feux d'artifice d'un 14 juillet. Elle volait à ma naissance ce qui lui donnait à mes yeux son caractère unique. Je fus baptisée en grande pompe 1 mois plus tard. Selon la coutume des familles nombreuses, mon frère René et ma sœur Emilia furent mes parrains et marraines. Quand 10 fois par jour, par le menu et le détail, ma mère me faisait le récit des incidents bien ordinaires qui avaient précédé ma naissance, ni éclipse de lune ou de soleil, ni chevauchement d'astres dans le ciel, ni tremblement de terre, ni cyclone, j'étais toute petite, assise contre elle, sur ses genoux. Rien ne me faisait comprendre pourquoi je n'étais pas restée à l'intérieur de son ventre. Les couleurs et les lumières du monde autour de moi ne me consolaient pas de l'opacité où, 9 mois durant, j'avais circulé, aveugle et bienheureuse, avec mes nageoires de poisson-chat. Je n'avais qu'une seule envie, retourner là d'où j'étais venue, et ainsi retrouver un bonheur que, je le savais, je ne goûterais plus.